Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Et Oussem Loussaïef, qui n'a pas disparu. T'as vu la dame, elle a pas dit son nom, Oussem.
C'est fou ça.
C'est incroyable.
Je vais lui envoyer un message.
Du coup, tu restes quand même ou pas?
Bah, tu sais quoi, je pars et dès qu'elle redit mon nom, je reviens.
Elle a pas dit mon nom non plus.
Elle a pas dit son nom.
Elle a pas dit Marie.
Ouais, je me casse.
Ouais, ouais. Non, mais Marie, reste là. Moi, je me fais un plaisir de l'annoncer à chaque fois. Marie Zévan GP, là,
oui,
jusqu'à 21h.
C'est vrai.
Est-ce que Hugo, qui a la réalisation, il a le nom de. Tu sais, quand la dame dit Oussem Loussaïef.
Là, en plus, c'est
là,
horrible.
On peut le remettre. Attends, pour Oussem, allez, 21h02.
C'est horrible.
On est avec qui ce soir?
RMC Sport Show.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
C'est horrible en plus
quand
c'est
même. Du coup, évidemment, on est jusqu'à 21h ensemble ce soir, puisque c'est une soirée exceptionnelle. Week-end de trêve internationale, week-end de changement d'heure. Double dose de RMC Sport Show en attendant l'after à 21h. À suivre justement, tiens, bah, Oussem, puisque t'es là, on parle de quoi
dans 5 minutes ? On va parler de rugby, débriefer la défaite du 15 de France contre l'Écosse. On va aussi débriefer le tournoi destination. Qu'est-ce qu'on retient ? Quelles individualités ont été au-dessus par rapport au collectif, et puis on parlera du top 14. Pascal Papé, Philippe Saint-André.
L'équipe de France a-t-elle progressé? Commencez déjà à nous envoyer vos messages sur le hashtag RMC Live, sur le direct studio. Vous pouvez nous appeler hein, également. Faites le 32-16. Venez nous dire si vous trouvez ou pas que l'équipe de France a progressé cette année. Vous appelez le 32-16. Message d'ailleurs de Jean-Louis qui nous dit: messieurs, un peu de respect pour Michel Drucker. N'oubliez pas qu'il a débuté en faisant le même métier que vous. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Jean-Louis, c'était totalement amical. Michel Drucker, le boss.
Exactement. Exactement. Et c'était le boss de Guy Lux, c'était le boss de vraiment de tout le monde. Depuis des générations.
Ouais.
C'est le boss de Clovis aussi, normalement.
Retour à la Formule 1. Donc, puisque la saison a redémarré aujourd'hui,
oui.
Premier des 23 Grands Prix prévus cette saison, et elle a démarré comme elle avait terminé, par une victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen sur ce Grand Prix de Bahreïn. Aujourd'hui, on est toujours avec Jean-Luc Roy, la voix de la Formule 1 sur RMC. On a débriefé cette victoire, les deux écuries proches. Jean-Luc, ce qui se dégage aussi de ce Grand Prix, ce premier Grand Prix de la saison, c'est que, a priori, on aura quand même, encore une fois, deux écuries, même si elles sont peut-être approchées, au-dessus du lot et loin devant les autres, Mercedes et Red Bull.
Oui, c'est exact, Thibaut, mais peut-être pas autant que c'était le cas dans le passé. Tu sais qu'il y a eu des modifications de règlement au plan technique. Donc, on a retiré pas mal d'appui, entre 10 et 15% d'appui au monoplace. D'ailleurs, ça soulage un petit peu les pneus Pirelli qui se sont, j'en dis tellement de mal, souvent pas trop mal comportés lors de ce Grand Prix. On a eu des stratégies vraiment très variées avec l'ensemble des pneumatiques, les softs, les médiums et les durs utilisés. Oui, c'est évident qu'entre Red Bull et Mercedes, bon, ce sont les protagonistes et les gens qui vont se battre pour le titre, mais pas très loin derrière, on a quand même les McLaren à moteur Mercedes, puisque Lando Norris termine quatrième, et puis les Ferrari, parce qu'on les prend en sandwich, hein, Charles Leclerc a bien figuré un bon moment, Carlos Sainz n'est pas loin, donc je crois qu'il y a quand même quelques belles ouvertures pour les Grands Prix à venir, et puis tu sais, heureusement, la Formule 1, malgré tout ce qu'il y a comme technologie, ça n'est pas une science exacte, et souvent on a des surprises. On a bien eu une magnifique victoire de Pierre Gasly à Monza l'an dernier, donc tout peut arriver.
C'est vrai, tout peut arriver, il suffit qu'il y ait des abandons, Maryse.
Si tu dois nous vendre la saison là, en quelques mots, qu'est-ce qui va être le plus intéressant dans la saison justement? Les évolutions matérielles et le fait finalement qu'on ait plusieurs écuries qui peuvent se faire la guerre, enfin se concurrencer, ou ça va être plutôt une lutte d'hommes? Ou à la fin, c'est toujours le même qui gagne et puis voilà.
Je vais te faire plaisir, Maryse, puisque je sais, moi aussi, bien sûr, il y a de la technique, de la technologie, mais moi, ce sont les hommes qui m'intéressent le plus. Et je pense que le bras de fer entre Hamilton, qui va... D'ailleurs, il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu célébrer une victoire de cette manière-là.
Ah, oui.
Il était vraiment, vraiment fou de joie parce qu'il ne pensait pas la gagner. Il pensait d'ailleurs que ses performances allaient être en retrait, même aux essais. Donc, il a été fort heureusement surpris. Donc, c'est la lutte entre les hommes. Verstappen, on l'a vu très solide. On saura probablement dans quelques heures ou quelques jours ce qui s'est vraiment passé, si on veut nous le dire, parce que là aussi, il ne faut pas dévoiler ses faiblesses aux adversaires. Mais moi, je pense avec un Pérez également, hein, on le souligne, qui est parti des stands après des ennuis techniques et qui remonte cinquième. Donc cette fois, on a une vraie paire de pilotes très solides chez Red Bull, capable en tout cas pour Pérez de s'opposer à Bottas en conditions normales. Donc oui, on va avoir une lutte au sommet entre deux écuries, et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, évidemment, pour la Formule 1 et quand on est passionné. Et c'est une lutte d'hommes, bien sûr, parce que Hamilton et Verstappen, on le sait bien, ne partent pas en vacances ensemble, hein, ils n'ont pas du tout la même mentalité, la même attitude générale dans la vie, donc ils se respectent infiniment sur la piste, naturellement, mais ça va être très très intéressant.
Je suis déçu, je me permets, ouais. Thibaut, je suis déçu, Jean-Luc, parce que je pensais que pour nous vendre la saison, tu allais nous vendre les performances de Mazepin. Franchement, je suis très, très déçu.
Tu sais que je l'ai déjà surnommé, il n'y a pas que moi, hein, comme il a fait deux têtes à queue en essai, Mazepin, puisqu'un spin en anglais, c'est un tête à queue, ouais. Hein, tu le sais, donc ouais. Il en a déjà fait deux, donc ça lui va pas mal.
Et je crois qu'il en a fait un au premier tour, on est d'accord, hein, sur ce point.
Il est sorti. Alors là, à mon avis, c'est un souci technique, parce que sincèrement, pour sortir de la piste comme
seul,
ça,
je seul, comprends
pas.
Je pense alors, qu'il y a eu un souci, là. On parlait de la lutte Hamilton-Verstappen, Mercedes-Red Bull. Quelle place pour les Français dans tout ça? Pilotes et écurie.
Ah, on a été déçus.
Ah, on a été un peu déçus. Pierre Gasly est parti cinquième. On avait beaucoup d'espoir. Finalement, il ne termine pas cette course. D'ailleurs, après avoir eu un problème rapidement. Jean-Luc, c'est les faits de course qui ont eu raison de la course du pilote français.
Écoute, magnifique qualification, bien évidemment, sur la grille. Il était parfaitement dans le coup, surtout qu'il s'était qualifié en pneu médium. Hein, c'était très important pour la stratégie. Il était cinquième sur la grille. Donc, comme les trois hommes du début de grille, Verstappen, Hamilton et Bottas, ce qui lui donnait l'opportunité d'avoir là aussi une très belle stratégie. Malheureusement, il y a eu cet accrochage. Alors, on saura, bon, a priori, il me semble que c'est peut-être lui qui commet un peu l'erreur. Il vient, en tout cas, percuter la roue arrière gauche de mémoire d'une McLaren, devant lui. Je crois que c'est celle de Ricardo, et donc il arrache le museau, et là évidemment sa course est fichue, quoi. Il doit repasser par la voie des stands, on lui change le museau bien sûr, on lui change les pneumatiques, et puis là après il se lance dans quelques remontées, et je pense qu'on l'arrête un petit peu plus tôt avant la fin, ouais. Pour ne pas, tu sais que le nombre de moteurs, de boîtes de vitesse, etc. est très contrôlé, limité, ouais. Donc ça sert à rien, il peut pas revenir dans les points de toute façon, donc c'est une grosse déception, c'est vrai, on attendait beaucoup mieux, d'autant que le très jeune japonais Yuki Tsunoda, à peine 20 ans, se classe. Eh, c'est génial, il se classe 9e, donc c'est un rookie. Hein.
Je peux te dire que dans
l'histoire de la Formule 1, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont marqué des points au premier Grand Prix, franchement. Hein, donc ça veut dire qu'il a beaucoup de talent, ce jeune japonais.
Jean-Luc, question chauvin et chauvinisme. L'écurie française Alpine te place Ocon à la 13e et Alonso, un peu de déception, lui qui a un palmarès bien garni, qui ne finit pas la course.
Oui, il y a eu un problème technique. Alors, on va se consoler en se disant qu'il était dans le top 10. Il était 9e sur la grille de départ. En course, il tenait cette place. Hein, et j'ai regardé les écarts à l'arrivée, là. Oui, il aurait pu devancer peut-être Tsunoda, probablement, mais pas Sainz, hein, c'est évident. Donc, sa place, c'était 9e à Fernando, 9 ou 10e. On ne termine pas. C'est toujours une grosse déception, évidemment, pour l'équipe. Et surtout, il va falloir savoir et analyser pourquoi on ne termine pas. La performance, et ça, c'est plus inquiétant, des Alpines, elle n'est pas là. Très clairement, parce que même s'il a été gêné dans son tour le plus rapide, Esteban Ocon n'est parti que 16e sur la grille. Et puis en course, à un moment, il était revenu aux alentours de la 12-13e place. Mais bon, non, ça le fait pas. On n'est pas dans le coup. On n'est pas du tout en bagarre pour les 3e, 4e rangs, là où on trouve les Ferrari, les McLaren et même les AlphaTauri.
Jean-Luc, je remercie Alfred sur le Direct Studio qui dit une entrevue de Christian Horner, donc le patron de Red Bull après la course, qui explique que Verstappen a dû laisser sa place à cause du débordement hors piste, mais peut-être un peu trop tôt. Il aurait voulu le faire au virage d'après, mais le pneu était usé apparemment, donc c'est bien sur le dépassement qu'il fait sur Hamilton et qu'il a préféré le laisser passer avant d'être pénalisé en fait.
Je comprends même pas la stratégie parce que sincèrement, non, mais c'est vrai. Et en plus pour
la
moi,
peur de la
sanction, ça mérite. Interprétation du règlement, il n'a pas tiré avantage de cette sortie de piste. Hein. Elle s'est produite après le dépassement d'Hamilton et non pas avant. Donc, il a bien dépassé Hamilton sur la piste à la régulière. Après, certes, il est sorti de la piste, on est d'accord, mais ça ne lui a pas procuré un avantage déterminant. Alors bon, on a dû lui dire, hein, tu sais qu'effectivement, dans le casque, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a les stratèges. On a dû lui dire, il vaut mieux que tu lui rendes la place. Moi, ce qui m'a étonné quand même, c'est que dans les deux ou trois derniers tours, il n'ait pas été en mesure de porter une nouvelle attaque sur ça, c'est pas normal parce qu'il était beaucoup plus rapide. Alors il a un peu cramé ses pneus dans le sillage de la Mercedes, ça je l'avais dit à ce moment-là, c'est évident, il a perdu de l'efficacité, mais j'avais le sentiment qu'à l'accélération, à chaque sortie de courbe, il n'était pas aussi rapide qu'il l'était avant, donc il y a pas que ça pour moi comme explication. Maintenant il raconte ce qu'il veut, Horner c'est le champion du monde des
menteurs. C'est de sa faute, de toute façon, moi j'ai vu dans la série Netflix,
champion du monde des menteurs.
Tout est de sa faute.
Exactement.
Kennedy, je crois qu'aussi c'était lui.
Tout.
Quand tout ce petit monde, Jean-Luc, dans trois semaines, c'est ça?
Écoute, il va falloir attendre. Ça va être long. Eh oui, Imola. Il va falloir attendre trois semaines pour se retrouver sur le magnifique circuit d'Imola en Italie.
En Émilie-Romagne.
Et là, je peux te dire que Oui, Émilie-Romagne, exactement. La revanche va être tout à fait formidable. Et puis, on va se trouver avec un circuit avec des conditions et des caractéristiques totalement différentes, évidemment. Mmh. Il fera forcément moins chaud, même si là, on a roulé de nuit. Hein, il faisait une vingtaine de degrés. Mais ça va être génial. Écoute, je crois que cette saison est magnifiquement lancée. Pour moi, j'ose le dire, c'est même le lancement le plus enthousiasmant qu'on ait vu depuis petite dizaine d'années. Tu vois, j'y vais carrément.
Ça fait plaisir d'entendre ça, Jean-Luc. Et on a hâte découvrir ce prochain Grand Prix à tes côtés. Une bonne soirée, Jean-Luc, et à très vite, évidemment.
Merci beaucoup.
Salut,
bonne émission.
Salut.
C'est ton expert.
Une bise à Maryse.
Bise.
20h11, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 21h avec Maryse et Vangépé. Tiens, Oussam, dans quelques minutes, on va échauffer Maryse. Parce que demain, Maryse, dans le Super Moscato Show.
Elle va parler de rugby, sûrement.
Elle va parler rugby. Donc, du coup, Maryse, tu vois, on te prépare.
En fait, on en parle un petit peu toute la semaine, quand même.
Hein. Légèrement. Mais au moins, comme ça, demain.
En fait, je pense plutôt que c'est le Moscato Show qui m'a échauffé pour le RMC Sport Show.
C'est possible.
On le prend dans ce sens-là. Dans un instant, l'équipe de France a-t-elle progressé 2021. On vous attend au 32-16. Appelez-nous. Pascal Papé, Wilfried Templier et Philippe Saint-André seront là également. À tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Oussam Moussaïef, Thibaut Jean-Grande.
Et Maryse et Vangépé, comme toutes les semaines. Oui, il est 20h15. Oui, on est encore là. Pardon. C'est un week-end spécial. On a 2 heures ce soir. C'est un week-end de trêve internationale. On a parlé de l'équipe de France tout à l'heure. Victoire contre le Kazakhstan 2-0. Il y aura un nouveau débrief et en longueur avec l'after à partir de 21h. Évidemment, mais à 20h15 avec Maryse, on se penche sur ce qui n'a pas changé. Parce que comme l'année dernière, Oussam, on a vibré sur le 15 de France.
C'est vrai ce que tu dis.
Comme l'année dernière, on a cru à la victoire finale. Maryse, c'est vrai, on y a cru jusqu'au dernier match.
C'est vrai.
Mais comme l'année dernière, on a fini deuxième de ce tournoi destination.
C'est pas faux.
Attention, 4 points d'avance pour l'équipe de France. Le bon plaquage de Charles Olivon. Mais on va au sol. Aldrit qui essaye d'arracher ce ballon. Ils sont à 2 mètres maintenant. Avec Itoje. Oh, l'essai. Est-ce qu'il y a essai? Essai accordé pour l'Angleterre. 77e minute. Il faut être calme avec Camille Chat qui se propose en premier attaquant. Il a Gelonge derrière lui. La percussion de Camille Chat. On avance. De nouveau le ballon pour Serin pour Olivon. Olivon pour Eltabak. Eltabak pour Ficou. Ficou extérieur. Laissez. On ne pourra pas gagner le tournoi, il faut sortir ce ballon et finir deuxième. Pénalité pour l'Écosse. Mais pourquoi on n'a pas dégagé ce ballon? Mais il fallait sortir ce ballon, on n'a rien à gagner. La sauter. Peut-être laisser écossais. Ils se sautent dans les bras les uns des autres. Qui va donner la victoire à l'Écosse?
Les moments forts.
Je pourrais écouter cette bande son toute ma vie.
Ça sans drogue.
Wilfried Templier.
Eh oui. Les grands moments de ce tournoi destination, commentés par Wilfried Templier avec Denis Charvet. Wilfried, qu'on accueille ce soir dans le RMC Sport Show. Salut Wilfried.
Bonsoir messieurs dames.
Salut Wilfried.
Alors, avant de présenter tout le monde, Wilfried, on est d'accord que sur l'essai du Pays de Galles, tu as un orgasme rugbystique.
Oui,
d'accord.
C'est sûr.
On a décollé de terre avec Denis.
On est accompagné.
C'est un grand moment.
Également. Ce soir, par quelqu'un qui a peut-être aussi vibré, mais devant sa télé cette fois. C'est l'ancien capitaine du 15 de France, Pascal Papé. Salut Pascal.
Bonsoir Marius, bonsoir messieurs.
Salut Pascal.
Tout va bien Pascal?
Très bien. Ça pourrait aller mieux avec une victoire des Français, mais non.
Eh oui, la France battue dans les dernières minutes par l'Écosse vendredi soir. Et cette question qu'on se pose, qu'on vous pose, même sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le Direct Studio et même au 32-16. L'équipe de France a-t-elle progressé par rapport à l'année dernière? Pascal, cette équipe de France 2021 a-t-elle progressé par rapport à l'équipe de France qui nous avait enthousiasmé et qui avait fini deuxième également l'année dernière?
Oui. Oui, moi je trouve que cette équipe de France, déjà, il y a de l'enthousiasme, elle procure des émotions. Ça, c'est ce qu'on avait besoin, hein, parce que je crois qu'on a mangé notre pain noir pendant suffisamment longtemps. Mm-hmm. Là, maintenant, c'est génial. À chaque fois, sur le dernier match, tu joues le gain du tournoi. Donc, donc c'est top. Maintenant, ça fait 2 fois qu'on finit deuxième. Ouais. Faudrait pas avoir la place du con, si j'ai envie de dire, trop longtemps. Mais au-delà de tout ça, vraiment, je trouve que la France a vraiment aussi passé un cap dans sa maîtrise du jeu et par rapport à la saison dernière et je pense que vraiment en plus on est très loin de ce qu'ils peuvent faire encore, donc une énorme marge de manœuvre encore pour cette équipe de France, donc moi je suis vraiment enthousiaste.
Wilfried, toi qui commentes les matchs pour RMC, qui suit le 15 de France au quotidien, tu es d'accord avec Pascal Papé, il y a quand même une amélioration, il y a un 11 qui se dégage. Il y a un 15, pardon, qui se dégage.
Il y a un 15 qui se dégage. J'ai un problème parce que je suis pas trop d'accord avec lui, mais il est plus costaud que moi.
Alors. Bah, ne le dis pas alors.
Et puis en plus,
non, parce que pour moi, Pascal, c'est vrai qu'elle a réédité cette deuxième place, et c'est pas rien par rapport à ces dernières années, c'est vrai. Mais pour moi, elle avait ni progressé ni régressé, je m'explique parce que, elle a perdu deux matchs cette année.
Et faut ajouter bien au contraire.
Ouais, elle a perdu deux matchs et on a le sentiment, pour moi, tu parles de maîtrise, j'ai pas trouvé tout le temps parce que des temps forts et des temps faibles, mais j'ai trouvé que ça a été moins géré contrairement à 2020. On va en reparler, mais son fameux jeu de dépossession, vous savez, prôné par Galtier, c'est-à-dire c'est moins vu, c'est-à-dire moins pression chez l'adversaire, hein, quand on n'a pas le ballon, jeu au pied, on étouffe l'adversaire et ça avait été plus subi comme contre l'Écosse par exemple où on n'avait pas le ballon mais on l'avait pas tout simplement quoi. L'impression générale quand même. Bon, faut pas occulter le fait après, messieurs dames, qu'il y a eu un avant et après épisode Covid pour les Bleus dans ce tournoi. Deux victoires dans un premier temps en Italie et en Irlande. On était presque sur un nuage à la sortie de l'Irlande. Puis dans un deuxième temps, deux défaites et une victoire à l'arraché. Et c'était avec plein de raisons différentes.
On va avoir effectivement l'occasion d'en reparler. Mais Maryse, j'aimerais ton avis là-dessus parce que
je suis pas du tout d'accord avec toi, Wilfried. Moi, je suis complètement d'accord avec Pascal parce que parce que je me souviens très très bien du tournoi de l'an passé. Il y avait quelque chose qui était extrêmement frustrant. On avait une équipe qui faisait presque tout le temps des trois quarts de match et ça craquait souvent dans les dernières minutes. Il y avait aussi beaucoup de pénalités, je me souviens, beaucoup de fautes. Cette année, les fautes, on les a vues sur quelques matchs un peu plus fébriles et effectivement, il y a clairement un avant.
On est l'équipe la plus disciplinée, Maryse, on est l'équipe la plus disciplinée.
Bon, tu vois, donc c'est un point positif. Et comme tu le disais, il y a clairement, effectivement, un avant après Covid. Clairement, notamment sur la fatigue et surtout sur la pression. Je pense aussi que sur ce dernier match, celui d'hier, mais on va y revenir, il n'y avait pas forcément le bon objectif dans la tête des joueurs. Et ça m'a fortement agacé. Mais j'ai vraiment trouvé qu'ils montaient en niveau. Et je rajouterais que le niveau global du tournoi cette année est bien supérieur à celui de l'an passé. Global pour toutes les équipes.
Wilfried, tu le disais dans ton intervention, tu parlais de deux tournois dans le tournoi, l'avant, l'après-Covid. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qui s'était passé avec même notamment l'épisode où on a eu une bulle sanitaire qui a explosé?
Alors on sortait d'une victoire, je vous l'ai dit, costaud en Irlande, 15-13, et le lendemain, le sélectionneur Fabien Galtier était testé positif, puis dans la foulée, le responsable de la conquête William Servat, puis un premier joueur en la personne d'Antoine Dupont trois jours plus tard, au total 12 joueurs et 5 membres du staff touchés par l'épidémie. On vous épargne hein, la polémique, tout ce qui s'est passé, les questions, les choses comme ça. Et malgré tous les changements, les mesures prises bien trop tard, la semaine suivante, le match de l'Écosse était reporté. Alors, au lieu d'avoir un calendrier qui était ainsi après l'Irlande, c'est-à-dire on gagne en Irlande, on a week-end de repos, l'Écosse, un nouveau week-end de repos et on enchaîne le déplacement en Angleterre et la réception du Pays de Galles. Et ben là, on a eu 4 semaines entre le match en Irlande et celui en Angleterre et on a enchaîné Angleterre, Galles et Écosse en 13 jours. Et enfin, on vous précise que 9 joueurs sur les 12 touchés par le Covid ont joué la fin du tournoi avec les Bleus.
Ouais.
7 en Angleterre, 8 face au Pays de Galles et 9 contre l'Écosse.
Pascal Papé, ancien capitaine de l'équipe de France, ça ne serait jamais arrivé, ça. Franchement, ça ne serait jamais arrivé avec toi à la tête de l'équipe.
Des gaufres,
sortir, manger des gaufres.
D'aller manger des gaufres, ah si. C'est bien ça le problème. En faire manger des gaufres.
Bien, il est honnête au moins.
Bah surtout maintenant qu'il y est plus, il peut le dire plus facilement. Pascal, l'effet que nous rappelait Wilfried. Concrètement, qu'est-ce que ça aurait changé ou qu'est-ce que ce Covid a changé? C'est quoi? C'est une question de rythme. Physiquement, forcément, à un moment donné, ils l'ont obligatoirement payé cette histoire de Covid. Cette pause et puis
alors
après,
peut-être sur le dernier match, mais en tout cas sur ce que j'ai vu de l'Angleterre et du Pays de Galles, honnêtement, t'as eu des ressources pour à chaque fois gagner le match. Donc l'Angleterre, tu le perds à la dernière seconde, mais le Pays de Galles, t'es mené de 10 points, et c'est toi qui viens le gagner dans les derniers instants. Donc là, il faut quand même avoir la caisse, faut avoir aussi de l'enthousiasme, etc. Donc je suis pas sûr que sur ces deux matchs, cette fameuse affaire Covid, eh bien, c'est peut-être plutôt sur le dernier et l'Écosse, sachant qu'il fallait en plus, il y avait un objectif de points d'écart, etc. C'est plutôt celui-là où j'ai l'impression qu'on a manqué, on a été un peu, on était un peu essoufflé, on était un peu, moins en jambes que les deux matchs d'avant en tout cas.
Wilfried, on a décidé de faire ce bilan du 15 de France et du tournoi Destination en faisant des comparaisons avec l'année dernière, avec l'édition dernière. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué, si tu as quelque chose en tête par rapport à l'année dernière? Et au contraire, sur quel secteur l'équipe de France s'est améliorée?
Alors, on parle du formidable potentiel offensif de cette équipe de France. On a d'ailleurs marqué 18 essais, je crois que c'est un record depuis 2006. Mais il y a ce tel potentiel, on en attend tellement de ce tel potentiel. Moi, vous Maryse et Pascal, vous le soulignez, mais en revenant sur les matchs, franchement, moi je trouve qu'on l'a vu par bloc de match. C'était 20 minutes, 30 minutes, que ce soit même en Irlande, on a 20, 30 bonnes minutes contre le Pays de Galles. On voit pas le ballon pendant 40 ou 50 minutes avant de réagir à la fin.
Oui, mais c'est l'inverse justement. Ce que t'as pas écouté dans ce que je disais. Enfin, tu l'as pas écouté.
Ce que
je voulais dire, c'est que la dernière fois, c'était à la fin qu'on craquait. Là, effectivement, il y a une entame de match. Alors, est-ce que c'est la difficulté à rentrer dans les objectifs? Mais ça monte en niveau et ça monte. Et je trouve qu'ils ont la caisse. D'accord. À part peut-être sur ce dernier match où, à mon avis, ils avaient été moussés par la semaine d'avant.
Bien sûr.
Mais on n'a pas eu de match de la première à la 80e où on. Mais vous l'avez dit, le niveau du tournoi était très très haut aussi.
Il te faut les 80 minutes alors. C'est comme ça.
Oui, contre l'Italie, mais est-ce qu'on parle de l'Italie? Pas forcément vu les résultats de cette équipe d'Italie. Donc moi personnellement, il me semblait ça que ils nous aguichent tellement avec leur jeu offensif. Rappelez-vous l'essai de Penaud à Twickenham en première main, ensuite d'une longue touche ou l'essai de Brice Dulin contre le Pays de Galles.
Là, Wilfried, excuse-moi, je suis vraiment d'accord avec toi, et je pense qu'on n'utilise pas assez cette force de frappe que l'on a en attaque. Et c'est peut-être vers cette évolution-là qu'il faudra aller, en tout cas. Ça, moi, j'en suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la qualité intrinsèque de nos attaquants, franchement, je suis pas certain qu'il y ait mieux dans le monde.
Ouais, c'est vrai. Et sur cette question qu'on posait, l'équipe de France a-t-elle progressé ou c'est vrai que pour l'instant c'est un malin plaisir de voir que tout le monde est contre Wilfried. Je rajoute le message de Régis sur le Direct Studio qui dit bravo aux joueurs, ils ont bien progressé. Le management, en revanche, doit se remettre en question, notamment pour la gestion des temps faibles et des victoires.
Le coaching était une pointée du doigt en Angleterre, évidemment, où on attend de faire rentrer trois joueurs, enfin Serein, Gelon, et voilà. Et juste pour finir sur le domaine défensif, on a eu le sentiment parfois qu'il y avait moins cette ligne de l'année dernière, qu'on était transpercé. Rappelez-vous le Pays de Galles, où il y a eu des actions du Pays de Galles. On avait rarement vu ça avec cette équipe de France. Et puis contre l'Écosse, qui faisait la force des Bleus, pas un rock facile pour l'adversaire voulu par le penseur de la défense tricolore Sean Edwards. Ça s'est pas trop vu. Alors faut dire que les Écossais sont très forts dans la conservation du ballon, mais bon. Alors, il y a cette impression, et puis quand on regarde la réussite au plaquage, c'est la deuxième équipe, l'équipe de France. 88,5%, 91% c'est l'Écosse. Donc ça apparaît pourtant en réussite, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, on a moins eu cette équipe qui étouffe l'adversaire avec sa défense.
Moi, j'ai aimé un peu tous les secteurs, même si sur le dernier match, effectivement, c'était pas tout à fait pareil. On a retrouvé une équipe un petit peu plus brouillonne. Mais finalement, moi, ce qui m'a le plus plu dans cette équipe, c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est la marge de progression. C'est-à-dire qu'ils vont encore progresser. On voit effectivement des secteurs qui sont encore pas tout à fait bons. Puis sur le dernier match aussi, c'est clair, on avait quand même quelque part le joueur qui a été l'un des joueurs qui a été le plus en vue. Ça a été Dupont, et sur le dernier match il était là, mais il était plus fatigué.
Traverse le terrain en plus, Dupont, à chaque fois.
Voilà, et donc quelque part, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance quand même de ce joueur, même si d'autres postes sont éminemment importants, et que quand il est un petit peu en dessous, ça faiblit un peu. Je pense qu'il y a vraiment une marque de progression.
Pascal?
Non, moi j'ai trouvé qu'il était là physiquement et que athlétiquement il était là. Dupont, il est énorme athlétiquement, mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, et ben forcément il a moins pesé sur ce match parce que je l'ai trouvé aussi émoussé. Les Écossais, la semaine d'avant, eux, ils étaient en Italie. Enfin, ils recevaient
ils ont eu un
galop d'essai, alors que nous, on a bataillé jusqu'à la dernière seconde pour aller battre les galops.
Émotionnellement, on a laissé des forces.
Mais tu sais, Pascal, c'est dans ce sens que je te disais que l'épisode Covid aura quand même pesé, parce que malgré tout, c'est une maladie. Donc, c'est fatigant pour les organismes. Et quand tu vois le match qu'ils ont fait la semaine d'avant, moi, c'est ce que je craignais un peu. Émoussé, mais émoussé pas simplement physiquement, émoussé mentalement, moralement, parce que quelque part, tu te dis on a peut-être fait le plus dur. Et puis c'est vrai que tout ce qu'ils entendent dans la semaine, et c'est là où on en revient au management, c'est que passer la semaine à entendre qu'il faut 20 points, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, ça fait peut-être aussi contourner l'essentiel du match, à savoir il faut d'abord le gagner ce match, il faut être vigilant, et peut-être aussi que ça leur met une pression supplémentaire qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas nécessaire. Et j'ai entendu tout ce qui a été dit sur l'erreur faite en fin de match, et j'avais mal pour lui, parce que je me disais il va en prendre plein la bouche. On va pratiquement lui faire porter l'échec de l'équipe de France, alors que il y avait un épuisement. Je pense qu'il y a eu vraiment à un moment donné, t'es plus lucide quand tu as cet objectif qui est en permanence devant tes yeux. Tu n'es plus lucide.
C'est vrai que c'était.
Je pense que c'est une énorme erreur. On est d'accord, mais c'est pardonnable.
Sur ce que tu dis, effectivement,
au niveau, oui.
C'est le SMS que m'a envoyé Oussem. Qu'est-ce qu'il fait, Brésilien? Il nous coûte la victoire.
Non, il est presque 20h30.
Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show. On est en direct jusqu'à 21h avec Oussem, évidemment, Maryse Evangépé, comme tous les dimanches soirs, avec Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC, et Pascal Papé, notre membre de la Dream Team. On fait le bilan, on se projette avec cette équipe de France qui achevait son tournoi vendredi soir par une deuxième défaite contre l'Écosse, et on est guidé par cette question. Est-ce que cette équipe de France a progressé, Oussem?
Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de statut? Moi, j'ai envie de poser la question à Pascal Papé. Tu as une expérience maintenant professionnelle avec les jeunes. On était l'équipe la plus jeune du tournoi Destination. Est-ce qu'aussi, naturellement, ça ne s'est pas tout simplement vu?
Mais bien sûr. Mais c'est ça qui est génial. C'est que. Il y a combien de joueurs qui ont été champions du monde moins de 20, avec notre équipe de France? Il y en a plein, c'est ça qui est génial. Et la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Donc évidemment qu'ils sont en train de se construire une sacrée expérience. Évidemment que, et puis heureusement pour les autres, que pour l'instant, on a encore des trous d'air. Mais c'est ça qui est beau dans cette équipe de France, c'est qu'elle a de l'avenir.
Alors elle a de l'avenir, mais au présent, ça fait toujours pas de titre, Pascal. On attend.
Oui, mais attends, 6 ans qu'on était 4e. 5e, 6e, on va pas se plaindre quand même. Ouais. Vraiment, je vais m'énerver là.
Ne t'énerve pas, je vais être obligé de quitter ce studio.
T'échappes pas, Thibaut.
Juste qu'on écoute sur ce thème, Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, qui, lors de sa prise de fonction, avait dit: je veux gagner des titres et rapidement avec l'équipe de France. Donc, quel bilan il fait de ce tournoi après cette deuxième place en 2 ans, Fabien Galthié?
Toutes les confrontations ont été des confrontations qui ont été très, très disputées en fait. Très intense, si vous regardez les écarts de points, ça se joue et souvent à la dernière action. Les matchs que nous avons joués, mis à part l'Italie, si vous regardez les scénarios des matchs, ils ont basculé quasiment dans les 5 dernières minutes tous, voire sur la dernière action, comme vous avez pu le vivre à plusieurs reprises. Après une défaite, c'est vrai qu'il faut faire preuve bien sûr d'humilité, mais nous terminons deuxième de cette compétition pour la deuxième fois. Il faut aussi le signaler dans une compétition qui est vraiment acharnée, c'est le mot.
Fabien Galthié, compétition acharnée, c'est vrai que c'est à quel point ça rentre en compte de voir tous ces matchs qui ont été serrés, qui se sont joués à rien. On a l'impression que on met l'Italie
non,
à part
plus,
évidemment,
mais toutes les retournements de situation, Thibaut, l'Écosse gagne en Angleterre, le Pays de Galles gagne en Écosse, l'Irlande gagne en Écosse, l'Écosse gagne en France, c'est rarement vu comme ça, une telle homogénéité.
Maintenant, c'est quoi le programme?
Après, on n'y croit pas du tout à ce qu'on entend. Moi, j'y crois pas du tout à ce que j'entends, mais il est dans son rôle. C'est normal.
C'est quoi le programme?
Je crois que Wilfried se moque de toi. Tiens,
déroule le programme, Wilfried, pour l'équipe de France.
En juillet, il y a 3 tests. Si tout va bien, si l'équipe de France peut aller en Australie, il y a 3 tests en Australie. Et ce sera bien de se frotter aux nations du Sud parce qu'on n'a pas pu le faire avec la pandémie. Et au mois de novembre, alors il y a rien d'officiel, mais il se pourrait que les All Blacks viennent en France. Si on a réglé tout ça, c'est pas officiel, c'est dans les tuyaux, ça bruisse un peu. Je sais pas, Maryse, Pascal, mais on a peut-être hâte de les voir eux face à les nations du Sud, là, l'équipe de France.
Wilfried, j'ai envie de te dire que c'est la suite de notre progression de venir maintenant se frotter.
Deuxième étage de la fusée.
Voilà, à ces nations de comme les All Blacks, comme les Springboks, attention, qui est l'Australie évidemment, mais. Voilà, je pense que là, on va avoir aussi, on va continuer à construire cette expérience et aussi on va voir un petit peu que vaut vraiment cette jeune équipe de France contre des équipes qui sont, qui ont peut-être, et encore, voilà, c'est pas les mêmes profils d'équipe, mais on peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont meilleurs que l'Angleterre, que le Pays de Galles, parce que comme on l'a dit juste avant, je trouve que ce tournoi, vraiment, le niveau de, à part l'Italie, évidemment, l'Italie, c'est vraiment monté.
Et du coup, c'est vrai que c'était dur pour l'Italie, parce que ça fait plusieurs années qu'on parle du niveau de l'Italie, mais là, c'était encore plus voyant, forcément, parce que les autres étaient, c'était quand même très homogène.
Ils ont pris 50 de moyenne, c'est
énorme.
Wilfried Templier, rien à rajouter, monsieur Templier? Alors on vous souhaite une bonne soirée.
C'est très bien rajouté.
Wilfried.
Salut Wilfried.
À bientôt. Merci, hein, merci soir. Wilfried et pour toutes ces émotions quand même, parce qu'on a vu jouer avec Wilfried dans les
oreilles. Et on aime quand tu perds ta voix.
Voilà, devant les matchs du top 14. Aussi, 20h33. Vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show continue. On est avec Pascal Papé, membre de la Dream Team, ancien capitaine du 15 de France. Maryse Evangépé est là également. Le tournoi est à peine fini. C'était vendredi contre l'Écosse. Le top 14 a déjà repris ses droits.
L'invité du RMC Sport Show.
C'est le moment.
C'est le moment.
Ah, c'est le moment.
La 20e journée avait lieu hier. Les 7 matchs étaient samedi. Et la sensation de ce week-end de top 14, c'est la victoire de Montpellier sur la pelouse du leader, le Stade Toulousain. Ouais. 29-16. Et l'entraîneur de Montpellier est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir, Philippe Saint-André.
Bonsoir, salut les amis.
Salut Philippe, salut.
Bon, tu entends le sourire.
Ah, quelle joie.
On est content de te retrouver, Philippe.
Quelle joie.
En plus, on est content de te retrouver avec le sourire parce que, faut dire ce qui est, ça a mis du temps à sourire cette année pour toi. Il y a eu pas mal de défaites cruelles depuis que tu as repris le banc, depuis que tu es l'entraîneur de cette équipe de Montpellier, pas mal de défaites dans les dernières minutes. Quand on a connu ces sales moments qui sont enchaînés, Philippe, qu'est-ce qu'on ressent au coup de sifflet final hier après une victoire chez le leader toulousain de cette manière?
Ben bien sûr, du bonheur, du plaisir, un vestiaire avec des sourires et de la joie. Mais j'ai envie de dire que voilà, c'est vrai qu'on a eu les 5 premiers matchs compliqués quand j'ai repris, mais depuis on a quand même relevé la tête. On vient de gagner 4 matchs sur les 5 dernières feuilles de match. Après, on sait qu'on n'est pas sauvé, que ce top 14 est compliqué, il est âpre, mais une victoire au Stade Toulousain, c'est quelque chose d'important pour l'équipe, pour notre vestiaire et pour cette jeune équipe.
Philippe, victoire 29-16 face au Stade Toulousain. Tu nous connais ici à la maison, c'est un peu chez toi aussi. Nous sommes journalistes et nous avons ce que nous appelons avec Thibaut très humblement la question relou. Et la question relou, elle est pour toi, Philippe. Est-ce que c'est le Stade Toulousain qui a sous-performé ou est-ce que ce sont les Montpelliérains qui ont sur-performé?
J'ai envie de dire que...
Moi, j'aurais jamais osé. Hein.
Je reconnais là où Sam et Thibaut, là, mes deux poulets favoris. Là.
Attends, c'est pas fini.
Non,
en plus.
Je crois que, bon, après, on le sait, durant les doublons, les Toulousains étaient handicapés, mais nous aussi, on a 4 joueurs en équipe de France, on a un joueur avec l'équipe de la Géorgie. Mais c'est vrai que pour nous, on l'avait bien préparé, même si... On a eu la Covid 15 jours auparavant, donc on n'avait pas pu s'entraîner collectivement. Mais pour nous, il nous reste 6 journées et chaque match, c'est une finale. On a besoin de points. On en a tellement perdu depuis le début de saison qu'on essaye de rien lâcher. Et puis en plus, quand on voit les performances des équipes qui sont juste derrière nous, Bayonne qui gagne, Pau qui vont prendre un point de bonus défensif à Castres, on sait que ce top 14, il faudra rien lâcher. Donc peut-être qu'il y avait plus de motivation de notre côté, mais surtout on a fait un match solide, on a été discipliné, on a été dans la maîtrise. Je crois qu'on a trouvé une identité de jeu qui colle au mieux à notre effectif et on est en train de revenir et d'être une équipe sérieuse.
Pascal Papé.
Salut Philippe.
Ça va, bon Pascal?
Ça va, merci. Philippe, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu as changé entre tes premiers matchs où tu es rentré dans une série, vraiment une spirale de défaite, et là, maintenant, tu l'as dit, tu es dans une spirale de victoire. Qu'est-ce que tu as changé en fait pour en arriver là?
3 victoires consécutives.
Ouais, bon, après, tu me connais, Pascal, je t'ai entraîné pas mal d'années. Bon, déjà, remettre le projet collectif au milieu du village, pour moi, ça, c'était important. Deuxièmement, de bien vivre et de bien vivre ensemble. Après, de remettre une concurrence saine. Il y avait des joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs qui ne jouait pas beaucoup. Hier, on gagne à Toulouse avec 5-6 joueurs ou du centre de formation ou des joueurs que j'avais signé la saison dernière en seconde division et qui sont en train vraiment de passer un cap. Et je crois que à partir de ce moment-là, après, ça passe par du travail, par de l'humilité, de la précision. Les 5 premiers matchs, on les a perdus de peu, mais parce que on donnait le bâton pour se faire battre. Là, depuis quelques semaines, on gère le match, on est pragmatique, et puis surtout, on est plus fort sur les fondamentaux. Olivier Azam, l'entraîneur des avants, amène énormément. Jean-Baptiste Elissade aussi au niveau offensif, mais on est pragmatique, on est discipliné, et puis on commence aussi à bien défendre collectivement parce qu'on a un vestiaire qui vit bien.
Philippe Saint-André, manager de Montpellier, est avec nous. Alors Philippe, je suis un peu agacé, je te dis la vérité. Tu commences à avoir un peu trop le discours du coach, franchement. t'es à 3 victoires consécutives, franchement, ton équipe, elle tourne mieux. Et tout à l'heure, tu nous dis quand même, oui, on n'est pas tout à fait maintenu. Alors mathématiquement, c'est sûr, mais ça sent bon quand même, tu peux nous le dire.
Ben, ça sent bon, hein. J'ai envie de dire, il nous reste 6 matchs. Si tu parles au niveau calcul, il faut qu'on gagne 4 matchs sûrs pour se maintenir. Par contre, c'est vrai que il y a 4 semaines, il fallait gagner le Stade Français, on le gagne avec le bonus offensif, on va gagner à Agen, mais tout le monde a gagné. Mais surtout, on a fait un gros match contre Clermont-Ferrand, contre l'ASM, qui a gagné au Stade Français ce week-end. Là, on a fait vraiment un match où ça a été un bras de fer. Et ce match-là, on l'a gagné dans les 5 dernières minutes. Qui nous échappait depuis le début de saison.
Et aujourd'hui, oui, Philippe, vous avez 8 points d'avance sur la 13e place, Montpellier, synonyme de barrage, hein, parce qu'Agen est loin derrière, évidemment. Donc c'est sûr que ça sent bon. Oussem le disait, Philippe, entraîneur de Montpellier, on sait que tu dépannes, tu l'as dit, tu resteras pas sur le banc l'année prochaine. Ce sera qui, du coup?
Il y a peut-être Pascal Pathé, s'il est sur le marché. Bon, après moi, de toute façon... S'il y avait encore eu 2 défaites supplémentaires, je revenais avec vous le dimanche soir pour jouer avec vous. Donc. Mais après, non, on est en train de créer un club avec le président Moed Altrad qui investit à 200%. On a changé de politique. On a vraiment travaillé sur le centre de formation, sur la jeunesse. Pascal le sait mieux que tout le monde parce que lui il travaille au Stade Français là-dessus aussi. On a encore hier, c'est un jeune demi de mêlée du centre de formation, 19 ans, qui a joué 70 minutes. On a un jeune pilier à Arroyo qui fait de plus en plus de feuilles de match.
C'est bien ça.
Donc voilà, on parlait des trop souvent des étrangers, des Sud-Africains du MHR. Alors bien sûr qu'on en a et c'est des mecs qui sont exceptionnels et qui jouent le jeu, mais on est dans une moyenne de 18 à 19 GIF, c'est-à-dire joueurs issus des filières de formation au MHR depuis le début de saison. Et ça, vous, c'est votre métier et on oublie souvent de le dire et de
mentionner.
Bien sûr. Il est 20h41. Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier, est en direct dans le RMC Sport Show, toujours avec Pascal Papé, avec Marie-Zévan Gépé. Philippe, on voudrait profiter de ta double casquette.
Je voudrais juste te dire que ça me fait très plaisir de voir qu'on revient un peu aux fondamentaux à Montpellier, parce que c'était un peu la signature de Montpellier d'utiliser ces jeunes talents, justement.
Et oui, effectivement.
Ouais, ça tout à fait, Marie, toi qui connaît bien Montpellier, c'est vrai que c'était à un moment donné les 4 fantastiques, Louis Picamol,
François les anciens du Pixalou.
Ouais, Fulgence. Et mais bon, on a encore Fulgence qui est notre capitaine. Il était blessé ce week-end, mais qui donne tout et qui est aussi l'homme d'un club et qui est assez exceptionnel et important dans mon vestiaire actuellement.
Philippe, on a juste une dernière question. On profitait aussi de ta casquette d'ancien sélectionneur des Bleus. Évidemment, le tournoi qui vient de s'achever, on était en train de le débriefer avec Pascal Papé, avec Wilfried, avec Maryse. Quel regard tu portes sur ce tournoi 2021 de l'équipe de France? Est-ce que tu vois une équipe de France qui a progressé par rapport à l'année dernière?
Ils font deuxième... 2 fois d'affilée, alors on a une génération qui est exceptionnelle.
Ouais, t'aurais voulu l'avoir,
celle-là. J'ai bien entendu Pascal, et je suis d'accord, on a vu un tournoi des destinations d'une qualité exceptionnelle, à part les Italiens, mais parce que les autres sont tellement supérieurs. Après, il est étonnant ce tournoi destination pour les Français, parce que pour moi, Ils méritaient de gagner à Twickenham. Il y a eu un fait de jeu et on perd dans les dernières minutes. J'ai envie de dire le match le moins maîtrisé, c'est contre le Pays de Galles qu'on gagne. Et puis là, contre l'Écosse, on le maîtrise quand même. On marque 3 essais. Et alors qu'on a gagné le match, on pense à marquer ce bonus offensif. Alors que de toute façon, on ne pouvait pas gagner le tournoi destination. J'ai envie de dire que c'est dommage, cette fin de match contre l'Écosse met un petit peu d'amertume. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi pas en vivant collectivement des matchs comme cela qu'on va grandir. Mais sincèrement, je pense qu'on va avoir une équipe de France, et surtout en Coupe du Monde en France, hein, en 2023, qui va arriver à maturité et qui va être exceptionnelle.
Merci beaucoup Philippe, c'était un plaisir de recevoir ce
Salut
soir de l'AMC Sport Show. Bravo pour ta victoire hier à Toulouse et on te souhaite bonne chance pour la suite de la saison. À très vite Philippe.
Bonne soirée.
Salut Philippe.
Salut Saint-André. Ciao, ciao.
En direct sur RMC. On remercie également Pascal Papé.
Merci à nouveau, merci Pascal. Les amis. Hein.
Merci. Passe une bonne soirée. On espère que tu reviendras nous voir après une victoire du Stade français.
Ouais.
Mais ça, bien, très vite alors.
Ouais, voilà. Dès dans 3 semaines. Merci Pascal. Passe une bonne soirée. À très vite. Marie, si tu restes avec nous, on est en direct jusqu'à 21h dans le RMC Sport Show. Après, ce sera l'after, Oussem.
Et oui, à 21h, l'after autour de Nicolas Jamin. Débrief de la victoire des Bleus au Kazakhstan. Ils reviendront sur les bons points, les mauvais points de cette rencontre qui comptait pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022.
Mais d'ici là, à la découverte du nouveau champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou. Il a été impressionnant hier.
Il n'était pas là pour rigoler.
Non, joli bébé.
Tout ce qui est patience, tout ça, c'était pas son truc.
Et puis, comme toutes les semaines, le mou des vents GP. Maryse, est-elle de bonne ou de mauvaise humeur? Suspense. Réponse dans une minute sur RMC.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïev, Thibaut Jeangrande.
Il est 20h45. Excellente soirée à l'écoute d'RMC. C'est un RMC Sport Show spécial. Votre rendez-vous du dimanche soir à la radio dure 2 heures. On est en direct avec Maryse et vents GP jusqu'à 21h avec Oussem, évidemment. Dans quelques instants, le mou des vents GP. Mais d'abord, Oussem, Marie. Cette nuit, il y avait bagarre. Et le résultat a été surprenant. Francis Ngannou est devenu champion des poids lourds de l'UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA. C'est une consécration, le Camerounais. Et le premier Africain à remporter ce titre. Ça ressemblait à ça, cette nuit.
Ouais, bien accroché gauche.
Le contre, là. Si, s'il veut voilà, avancer maintenant, il va devoir s'exposer.
Bonsoir Valentin Jamin.
Bonsoir messieurs, bonsoir Marie, bonsoir
Valentin.
À toutes et à tous.
Bonsoir. Journaliste RMC Sport, victoire de Francis Ngannou contre l'Américain Miocic. Et on a entendu quelques extraits.
Oui.
Ça a été une démonstration.
Victoire en effet dès le second round par KO spectaculaire, hein, conclu avec un énorme crochet du gauche, succès en 5 minutes 52 secondes. On rappelle que ce combat pouvait durer 5 reprises, donc 25 minutes. Vous allez donc me dire 5 minutes 52, ça a été expéditif, mais pas vraiment, parce que sur ses 4 derniers combats avant cette nuit, Ngannou était resté seulement 2 minutes 32 dans la cage. C'est donc hyper impressionnant. Aujourd'hui, il est l'homme à battre, hein, bien sûr, dans cette catégorie. Il l'a dit et répété, c'est une immense fierté pour lui.
Valentin, tu parles de fierté, parce que c'est vrai qu'Ngannou, c'est un parcours particulier et une histoire très compliquée.
Il est arrivé en France en effet en 2013 clandestinement. C'était un migrant après des années de galère au Cameroun où il est né. Parents séparés, papa brutal, très peu d'argent. Il a même travaillé dans une carrière de sable pour payer sa scolarité quand il était ado. Puis il a commencé la boxe, un exutoire, et en 2012 il décide de partir en Europe pour vivre sa passion. Un périple qui va durer de très très longs mois. Niger, Algérie, Maroc. Il atteint très difficilement l'Espagne après plusieurs tentatives. Il garde même, il le dit, des cicatrices de ce voyage sur son corps. Et donc il arrive à Paris il y a 8 ans. Il est d'abord logé dans un foyer pour migrants. Puis il devient sans abri, il dort dans des parkings. Et il se met à chercher une salle de boxe. Il veut absolument boxer, il en trouve une dans le 11e arrondissement. Et là on lui conseille le MMA. Il découvre à Paris la MMA Factory, hein, qui a formé différents combattants comme Cyril Gane, le combattant de MMA. Et donc il commence ses combats, il se bâtit une réputation. Et en 2015 il intègre l'UFC, Thibaut tu l'as dit, la ligue la plus prestigieuse de MMA. Il part aux États-Unis, il fait carrière jusqu'à donc cette prestigieuse ceinture cette nuit.
Marie, c'est ce genre d'histoire qu'on aime entendre, ce qui se construit dans la difficulté pour atteindre le toit du monde tout simplement.
C'est oui, c'est un parcours de vie qui est extrêmement impressionnant, qui comme le bonhomme d'ailleurs, quand on l'entend parler, cette espèce de calme avant la tempête, et puis tout ce parcours difficile, parce que on s'imagine toujours que quitter son pays pour aller clandestinement dans un autre, ça se fait comme ça, mais c'est déjà extrêmement compliqué pour des gens qui sont pas sportifs, et pour quelqu'un qui vient avec un objectif et un rêve et qui est dans la rue, on peut se dire qu'il va tout laisser tomber et qu'il va simplement chercher à bosser. Non, en fait, il est arrivé et il s'est dit bon ben maintenant où j'en étais de mon rêve. Ah oui, c'est vrai, je voulais être champion du monde de boxe. Bon, ben, on va reprendre le truc. Ah ben, je peux pas y arriver en boxe. Pas grave, je vais faire autre chose. Non, c'est une histoire qui est extraordinaire, je trouve, qui est brillante, qui est motivante. Et c'est une belle histoire aussi pour le Cameroun. Il n'y a pas tant de grands champions que ça. On parle beaucoup du football en Afrique. Oui. Les autres sports ont beaucoup de mal à exister.
Ah oui, c'est la première fois qu'un Africain est champion du monde sur la catégorie des poids lourds en MMA, et rien que pour ça, comme tu le disais Maryse, c'est une grande fierté pour le continent.
Et merci Valentin Jamin pour cette histoire que tu nous as racontée.
Merci Valentin.
Juste messieurs, l'embêtez pas, parce que on estime qu'il a le coup de poing le plus puissant du monde. Vous voyez les puissances des voitures, 96 chevaux à peu près, un coup de poing de Francis.
96 chevaux, voilà. C'est plus que ma Fiat 500. Ouais.
C'est incroyable. J'avoue que même avant que tu me donnes cette info, j'avais pas prévu d'aller l'embêter.
Non, on te connaît pourtant, t'es taquin.
Ouais, c'est vrai, t'es taquin.
Non, je suis taquin si j'ai la personne au téléphone, mais après, bon, tu me connais aussi. Si la personne est en face, on est extrêmement lâche. Merci Valentin.
Bonne soirée, mesdames.
Bonne soirée,
Valentin.
20h50, vous êtes sur RMC et on a du direct.
Et oui, le football reprend ses droits, puisque toute la journée sur RMC, on vous fait suivre les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 avec Johan Bredov. Salut Johan.
Rebonsoir messieurs.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme belle affiche ce soir?
Alors, on a Bulgarie, Italie, évidemment, groupe C, l'Italie qui reste sur une victoire 2-0 face à l'Irlande du Nord. La Bulgarie, elle, a perdu 3-1 face à la Suisse. L'info, c'est qu'on a les deux joueurs du PSG qui sont titulaires, Florenzi et Verratti. On va voir comment ils vont se débrouiller. Ensuite, je vous propose, en deuxième match, Roumanie-Allemagne dans le groupe J. Rappelez-vous, on avait quitté l'Allemagne il y a quelques mois avec cette défaite 6-0 contre l'Espagne. On avait vu les joueurs allemands débuter. Ouais. Ils se sont un peu repris avec un succès 3-0 face à l'Islande. Maintenant, il faut gagner pour rejoindre l'Arménie en tête de ce groupe J. La Roumanie, elle aussi, a gagné face à la Macédoine du Nord 3-2. Voilà pour ce deuxième match. Et enfin, évidemment, Ukraine-Finlande. Ça, c'est dans le groupe de la France, le groupe D. Deux équipes qui restent sur un match nul. L'Ukraine face à la France, évidemment, le 1 partout. On va voir comment vont se débrouiller ces deux équipes.
Merci Johan, on te retrouve dans quelques minutes pour suivre ensemble et jusqu'à minuit dans l'after avec Nicolas Jamin et Fred Piquion, notamment ces rencontres de qualification mondiale 2022. À tout à l'heure, 20h51. Maryse, comme toutes les semaines dans le RMC Sport Show, tu nous partages ton humeur.
RMC, le mood Evan GP.
Qu'est-ce qui t'a mis en colère ou en joie?
Je crois qu'elle est en phase avec la musique, je crois.
Ouais, non, je suis en joie, mais tu sais, avec moi, c'est toujours à double sens, hein. Donc, c'est un coup de cœur et j'ai envie de parler chiffon aujourd'hui. Ah. Je sais pas si ça vous dit.
Vas-y.
Vous avez envie?
Vas-y.
Allez.
Vas-y.
Moi, il y a une image qui a retenu mon attention ce week-end, c'est celle des joueurs de l'équipe des Pays-Bas arborant un protesti. Tu sais ce que c'est qu'un protesti?
Je connais les protestants, mais les protestis, je connais pas.
En fait, c'est tout simplement un t-shirt, hein. Un t-shirt avec un slogan qui te permet de dénoncer
protesti,
ce que tu veux.
Ah oui, protesti en un seul mot.
Par exemple, je sais pas, moi, non au mauvais temps, enfin, tu vois ce que tu veux. Ouais. Mais en général, protesti, c'est plutôt pour dénoncer des choses qui sont de l'ordre du social, des choses comme ça. Et là, cette fois-ci, donc, les joueurs des Pays-Bas portaient ce t-shirt pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades au Qatar avant le match de qualification pour le Mondial 2022 contre la Lettonie. C'était donc ce samedi. Les oranges avaient choisi un maillot noir floqué de la mention « Football Support Change », le football soutient le changement. Et ce mouvement a été lancé, en fait, peu de temps auparavant par l'équipe d'Allemagne qui portait également un t-shirt. Ce jeudi, il y avait un chapelet de joueurs, tu sais, qui portait un t-shirt avec chacun une lettre. Et les lettres mises à côté formaient Human Rights. Donc là, c'était un petit peu plus précis. Puis ensuite, ça a été le tour de la Norvège qui a été jusqu'à chorégraphier son protest durant les hymnes avec la main gauche, celle du cœur, attention, levée, doigt écarté. Pour le message, c'était encore plus explicite cette fois-ci, les droits de l'homme sur et en dehors des terrains. Alors pourquoi une telle révolution, tu vas me dire? Parce que oui, c'en est une et je vais vous expliquer pourquoi. Cette révolution donc fait suite à une enquête du journal britannique The Guardian qui évoquait les conditions de travail des ouvriers venus construire les stades où vont se dérouler donc la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et selon ce journal, 6500 ouvriers, tous étrangers, auraient perdu la vie sur ces chantiers depuis 2010. On ne parle pas, bien sûr, des blessés, des conditions de vie, etc. C'est une information qui a soulevé une immense émotion, notamment du côté de la Norvège, très attachée aux droits de l'homme. Hein, c'est un pays qui défend beaucoup les droits de l'homme. De nombreux acteurs du football, d'ailleurs, dans ce pays, ont appelé à un boycott pur et simple de la compétition.
Ils demandent même, Maryse, d'ouvrir une discussion.
Oui, tout à fait. Un vrai boycott. Donc le boycott, on le rappelle, c'est pas une protestation, c'est pas une manifestation, c'est on vient pas. Ah, voilà, oui. Ça c'est un boycott. L'équipe nationale soutient le message. L'entraîneur national, d'ailleurs, Stale Sobalken, a assumé la position politique de son équipe. Et ça, c'est ça qui est une révolution. C'est une première. Dans un monde où on essaie de nous faire croire que politique et sport ne font pas bon ménage, alors que chacun sait que la politique, c'est plutôt la maîtresse cachée du sport. Hein. Celle qu'on montre pas, mais qu'on visite quand même à chaque fois qu'on a une élection à vendre ou un sondage à booster. Donc vous voyez, c'est toujours un peu présent. Pour autant, on peut quand même se poser la question de l'efficacité de cette révolution chiffon, parce que la Coupe du Monde aura bien lieu au Qatar. Ça, on le sait, c'est acté, et c'est acté depuis longtemps. Ça leur fait sûrement une belle jambe aux Qataris de savoir qu'on n'est pas content en Europe 10 ans après l'attribution de la compétition au pays. Finalement, il y a un joueur que je veux sortir du lot et applaudir plus particulièrement dans ce compteur de protestes qui était bien, hein, c'est bien de faire ces protestations, mais j'ai quand même envie de donner la parole au milieu de terrain allemand Joshua Kimmich, dont les paroles finalement sont un peu plus raccord avec ce que je pense moi,
très
et qui devrait
terre.
Peut-être bouger les pompes des instances internationales qui en font qu'à leur tête. Le Mondial 2022, les gars, ça a été attribué il y a une dizaine d'années,
c'est
donc
ça.
Si on devait protester, si on devait faire un boycott, c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait le faire, et c'est pas après qu'il faut sortir des t-shirts, non, c'est pas bien de maltraiter les gens. Alors j'ai envie de finir simplement sur un aphorisme, mais le mien. On connaît l'aphorisme qui est tiré des pensées de Blaise Pascal, qui affirme que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
Je savais pas que c'était
moi
Blaise
j'ai
Pascal.
Envie de c'est un aphorisme, c'est tiré de ses pensées,
ah ouais,
ça a été donc transformé.
Ouais.
Moi j'ai mon propre aphorisme tiré de mon portefeuille qui dit que le cœur a ses raisons que le pognon ne connaît pas. Voilà.
Effectivement. Et oui, certains pourraient se sentir visés effectivement.
Mais ne regarde pas parce que moi.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, ce qui est insupportable, si tu veux, c'est que on demande aux sportifs de soutenir les droits de l'homme et sais que du côté de la Norvège, carrément les écuisses, ça peut très mal tourner parce que l'opinion publique est très forte là-bas et ils peuvent très bien dire, mais c'est honteux que vous alliez là-bas. Donc culpabiliser les joueurs, alors que quelque part, au moment où tu attribues la Coupe du Monde, on a bien envie de les entendre, les joueurs, et de dire, oh les gars, nous envoyez pas au Qatar, soyez sérieux.
Exactement. Et puis là, maintenant que c'est lancé et que la Coupe du Monde arrive à grands pas, la première des choses, ce serait que la FIFA reconnaisse en tout cas les morts, parce qu'ils n'ont toujours pas reconnu.
Enfin, pour tous les sports, hein, parce qu'on parle de la FIFA, mais on se souvient qu'il y a eu un championnat du monde de hand, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme. Donc tout le monde est dans le même sac quand il s'agit de prendre l'argent et de faire les manifestations. On dit non, mais il n'y a pas de politique dans le sport, donc on va partout dans le monde. Oui, les gars.
Et justement, Maryse, tu parlais de ce mondial 2022.
Mais il y a les qualifications qui sont en cours avec Johan Bredov. Johan, est-ce que ça a bougé sur les pelouses?
Quelle passe d'ess.
Merci, Maryse. Sur les trois pelouses qu'on regarde attentivement, toujours pas. 0-0, évidemment, à la 11e minute de jeu, entre la Bulgarie et l'Italie, la Roumanie et l'Allemagne, et l'Ukraine et la Finlande dans le groupe de la France. Et dans les autres rencontres, il y a la Suède qui a ouvert le score contre le Kosovo. Et la Macédoine du Nord aussi qui mène 1-0 face au Liechtenstein. Voilà.
Merci Johan. On te retrouve dans quelques instants dans l'after. Maryse, merci. Passez une bonne soirée.
Merci Maryse.
Dans le SMS et la semaine prochaine pour un RMC Sport Show qui reviendra de 19h à 20h.
Mais qu'est-ce qui arrive à 21h, Thibaut?
Bien! L'after!
C'est jusqu'à quelle heure?
Eh ben non, ils vont être déçus, les after.
Nicolas Jamin, on pensait tous que c'était jamais.
La déception. Bon,
le coiffeur est là ce soir jusqu'à minuit, bien sûr, mais avec des stars, nos consultants stars.
J'ai vu quelques têtes passer.
Dimanche soir, Fred Piquion est là. Il a adoré le billet de Maryse Évangépée, ce grand humaniste qui est Fred Piquion. On va en parler justement ce soir.
Bien entendu, nous sommes tous des coiffeurs ce soir.
Non, je parlais pas de ça, j'ai dit que t'es un humaniste aussi. On parlera forcément de cette levée de bouclier, de cet engagement là subi depuis quelques semaines des sélections, notamment scandinaves, contre les droits de l'homme, pour les droits de l'homme au Qatar. Vous m'avez compris.
Oui.
On va bien sûr débriefer le match de l'équipe de France.
Si vous
n'avez pas dormi. Tout le monde a piqué de l'œil à RMC. J'ai des photos, j'ai des noms, effectivement.
Parce que moi, je note 20h58, piqué de l'œil. J'ai un mail à faire à Adrien Aigouin.
Piqué du nez, bien sûr.
Oui, tu peux piquer de l'œil. Mais franchement, ça m'arrive souvent, moi, quand j'ai une conjonctivite.
Et on sera ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. On viendra avec les drôles de dames sur les matchs de leur sélection qu'on va suivre en direct dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
Bonne soirée.
RMC, l'after foot.